jour à main. Économie.
Bienvenue, messieurs, dames, à la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur votre radio. Les titres avant de commencer. L'Assemblée nationale a voté lundi le budget 2016 aménagé. La commission ECOFIN de la Chambre basse du Parlement a apporté au moins l'équivalent franc-congolais de 80 millions de dollars américains au projet du gouvernement. La nouvelle mouture se chiffre ainsi à 8 476,4 milliards de francs congolais. Le groupe Equity a annoncé son entrée officielle dans la sphère bancaire et financière de la RDC. Equity Group est le nouvel actionnaire qui a acheté 79% de la ProCredit Bank Congo. Le groupe dispose d'un actif de plus de 5 milliards de dollars américains et plus de 10 millions de clients. À Kinshasa, la session spéciale de la SADC sur la corruption se tient depuis jeudi et se clôture demain dimanche. Les experts réfléchissent sur comment coordonner les efforts de la lutte anticorruption jusque-là menée par chaque État membre. Voilà pour le titre. Notre invité de la semaine nous appelle depuis Montréal au Canada. Lui, c'est Philippe Walesa. Il est le président du Fonds d'investissement de Congolais expatriés. Philippe, vous êtes avec nous en ligne?
Oui, je salue tous les auditeurs de la Grande Radio de la Paix.
Tout à l'heure, nous allons vous retrouver pour les commentaires et analyses de l'actualité de la semaine. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.
Panorama économique, le dossier.
D'abord, la synthèse de la semaine dans ce dossier de la semaine. D'abord, le budget de l'État 2016 voté lundi par les députés nationaux. Il se chiffre à 8 476,4 milliards de francs congolais. Le gouvernement avait présenté un projet de 8 437,4 milliards de francs. La commission économique et financière de la Chambre basse du Parlement, après examen approfondi, l'a majoré de 0,91%. Le groupe recette de l'Assemblée nationale a travaillé avec les riches financières et a pu dégager 77 milliards de francs congolais sur les 281 milliards que constitue le déficit consécutif à la baisse des prix des matières premières sur le marché international. Jean-Lucien Boussa, président du groupe recette de la commission ECOFIN, explique au micro de Mimi Ngumba Mulongo.
Le gouvernement de la République avait mesuré l'incidence négative de la baisse des cours à 281 milliards de francs congolais. L'Assemblée nationale, après analyse approfondie de ses prévisions, a réduit cet impact de 77 milliards de francs congolais, soit plus ou moins 80 millions de dollars américains. Donc aujourd'hui, le budget que l'Assemblée nationale arrête est amélioré par rapport aux prévisions que le gouvernement a amené à l'Assemblée nationale. Mais d'abord, 80 millions de dollars de plus, c'est quelque chose. Vous savez que si on doit aligner ça simplement dans la construction des écoles, vous en avez 400 au taux Banque mondiale, n'est-ce pas? Si vous voulez acheter de nouveaux avions, mais il est certain que si vous avez bien négocié, vous avez la capacité d'acheter deux avions neufs.
Un nouvel actionnaire dont ProCredit Bank Congo. Selon la transaction conclue en septembre, Equity Group a acquis 79% des parts dans ProCredit Bank Congo. L'annonce officielle de cette acquisition a été faite mardi à Kinshasa. C'était au cours d'une conférence de presse qui a suivi le premier conseil d'administration avec le nouvel acquéreur. Avec un actif de plus de 5 milliards de dollars américains et plus de 10 millions de clients, le groupe bancaire Equity se trouverait être le plus fort et le plus grand en Afrique centrale et orientale. En RDC, le groupe prévoit d'investir dans une technologie de pointe qui permettra à la banque d'offrir un service rapide de qualité à sa clientèle. Écoutons à ce sujet Célestin Moukeba, il est le directeur général de ProCredit Bank Congo. Il parle de la stratégie d'expansion de la banque.
Aujourd'hui, il y a eu le premier conseil d'administration du groupe Equity comme nouvel actionnaire stratégique de la banque. Equity, qui a à ce jour 79% de parts, a été introduisé au sein de la banque. Cette conférence de presse, c'était pour annoncer les ambitions stratégiques de la banque pour les 5 prochaines années. Nous pensons ouvrir 76 agences et nous nous sommes déjà lancés dans cette campagne d'ouverture d'agences bancaires pour faciliter, accélérer le processus de la bancarisation en RDC. Courant de cette année, nous avons déjà ouvert, je dirais, 10 agences dans ce vaste programme d'expansion de nos services bancaires. Le président du groupe a martelé aussi la force financière qu'a ce groupe, qui est le plus grand groupe de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale, qui pèse 5 milliards de dollars en termes de total actif et 1 milliard de dollars en fonds propres. Nous pensons que la banque va se déployer. Il y a des innovations qui sont en cours et qui vont vraiment aider à la démocratisation des services financiers en République démocratique du Congo. Le groupe va se lancer dans le financement de l'agriculture, parce que nous estimons et nous croyons réellement que l'agriculture est un levier important pour le développement d'un pays. Au niveau du Kenya, les groupes financent sérieusement l'agriculture. Nous pensons que c'est quelque chose que nous allons dupliquer ici en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de mettre en place les équipes. Nous allons commencer un projet pilote pour le lancement de ces produits à la clientèle.
Kinshasa, la capitale de la RDC, abrite depuis jeudi matin et ce sera comme ça jusque demain dimanche une session spéciale de la SADC sur la corruption. Les conclusions des travaux de Kinshasa devront permettre à la commission anticorruption de la SADC de peaufiner des stratégies en vue de coordonner les efforts jusque-là fournis par chaque pays membre de la SADC pour lutter contre la corruption. Le taux de pénétration de cette corruption dans la zone SADC est de 65%. C'est beaucoup, mais c'est mieux par rapport à d'autres regroupements économiques dont les taux de pénétration sont au-delà de 70%. C'est le professeur Augustin Mouenambali qui le dit. Il est le directeur de l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle en RDC qui explique.
La session spéciale de Kinshasa a pour objectif de permettre le passage des SAFAC à SAC. Et qu'est-ce qui est d'abord SAFAC ? SAFAC était né suite à l'initiative des commissions anticorruption des États, membres de la communauté de l'Afrique australe. Ce n'était pas une plateforme pilotée par la SADC. Maintenant que la SADC a compris, apprécié à leur juste valeur les efforts déployés par les commissions anticorruption des États, la SADC veut en profiter pour réveiller ce qu'on appelle le SAC, qui était déjà programmé depuis 2001, mais qui n'a pas pu démarrer à l'instar de la commission anticorruption de l'Union africaine. Alors, étant donné que nous avons montré que nous sommes dépositaires d'une certaine expérience, d'une certaine expertise à la matière, maintenant SAFAC va céder ses pouvoirs à SAC, de manière à ce que SAC soit supervisé par le secrétariat exécutif de la SADC. Ce transfèrement se fera autour d'un thème important, comment coordonner les activités anticorruption des États de la SADC.
Mais à ce jour, quelle est la situation de la corruption dans la sous-région ?
Dans la sous-région de la SADC, nous avons le meilleur score. Les quatre premiers pays africains avoir été bien cotés par les rapports de Transparency International, c'est effectivement, ces pays se trouvent en Afrique australe. Et c'est à ce sens-là que nous voulons profiter de cet élan pour pouvoir aller de l'avant, aller plus loin encore, puisqu'en Afrique centrale, les taux est de 77% des taux de pénétration de la corruption. En Afrique de l'Ouest, les taux est de 70%. Et en Afrique maghrébine, il doit être de 76%. Donc vous voyez que avoir 65% des taux de pénétration en Afrique australe, c'est déjà une démarche encourageante.
Le professeur Augustin Mouenambali, il parlait de SAFAC et de SAC. Alors, SAFAC est un acronyme anglais. Traduit en français, il signifie Forum des institutions anti-corruption de la SADC. Et cette instance, comme l'a expliqué le professeur, va laisser la place à SAC, qui est la commission anti-corruption de la SADC.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
D'autres infos de la semaine en plus bref. Les nouvelles autorités de la régie provinciale des recettes de la Tchopo dénoncent un réseau mafieux de certains agents de l'ex-directeur général des recettes de la province orientale DGRPO. Ces derniers s'illustreraient à faire payer anticipativement à leurs assujettis certains impôts, taxes et autres droits dus au trésor public provincial. Des enquêtes sont ouvertes pour dénicher les auteurs de ces actes. À Bumba, dans la province de la Mongala, les opérateurs économiques déplorent la paralysie de leurs activités. À la base de cette situation, la montée des eaux du fleuve Congo en cru, ainsi que des rivières environnantes, des voies de sortie sont coupées par des inondations, d'autres par des érosions. Les inondations s'attaquent même au marché des villages périphériques où ils vont chaque semaine écouler leurs marchandises, a fait savoir le président de la FEC Bumba, Omer Mankundu. D'autres plaintes des opérateurs économiques sont enregistrées cette semaine à Manunu, dans la province de Tanganyika. Ils affirment que le mauvais état de la route Lubumbashi-Manunu coûte cher en termes de vies humaines, de marchandises et de temps. Les accidents à répétition que cette route délabrée provoque commencent à décourager tous ceux qui empruntent cette route longue de 600 km. Pendant ce temps, plusieurs routes de Kinshasa sont de plus en plus dégradées. Avec les dernières pluies, la plupart d'entre elles sont soit coupées en deux ou encore menacées d'être coupé. On constate ça et là des lacs artificiels sur la chaussée. Les avenues bypass Kimwenza et Nguma à l'est et à l'ouest de la ville de Kinshasa se comptent parmi les plus dégradées. Conséquence, des quartiers entiers sont presque enclavés. Voilà, c'est le moment maintenant de retrouver en ligne depuis Montréal notre invité. Je voulais annoncer, c'est Philippe Walesa, il est le président du Fonds d'investissement de Congolais expatriés. Philippe, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là. J'avais déjà l'idée, la première remarque à faire.
Okay.
Lorsqu'on a parlé que le budget a été aménagé, on parle de 80 millions et puis on dit qu'avec ça, on passe de l'avion, on peut transiger avec la Banque mondiale. Oh, le fait que les Congolais doivent savoir est que en 2011, il y a un magazine appelé Les Renouveaux, qui est rattaché à l'ONU, qui a établi que les transferts des Congolais de la diaspora en RDC étaient de plus de 9 milliards de dollars, pendant que le budget de la RDC
un mois de 9 milliards.
Est de 8 milliards. Est de 8 milliards. Et l'intervention de la diaspora était même plus que l'aide internationale. Alors, parler de 80 millions, si je sais que la diaspora peut envoyer, moi je pense que les Congolais sont des investisseurs qui s'ignorent et que si on pouvait le faire pour qu'ils puissent rentabiliser ce qu'ils ont, je crois qu'on tournerait moins les dos verts comme les Nigériens l'avaient fait dans le passé, payer toutes ces dettes et puis vivre en paix. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire dans de ce côté-là pour diversifier effectivement l'économie.
L'économie, justement.
La dernière fois, lorsque j'intervenais, je disais qu'il faut que le gouvernement regarde comment on peut diversifier tout ce qui est avec les matières premières. Et la Chine, avec toute l'érosion monétaire, ça ne marche plus. Alors, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, on a un problème de manque de confiance parce que les Congolais ont été beaucoup abusés dans le passé. Vous vous souvenez avec les Nguma, vous vous souvenez avec beaucoup de choses. Et puis, ils deviennent beaucoup plus méfiants. Et avec ça, le gouvernement ne peut pas aller plus loin. Il faut rebâtir cette confiance-là. Peut-être après, à partir de la diaspora. Cela dit, je me suis un peu attardé sur Equity Group, qui a racheté son 19% de parts dans Portrait. Ça, c'est une très très mauvaise nouvelle, et je vais beaucoup vous...
Comment ça, une très mauvaise nouvelle?
Oui, je vais vous la démontrer, parce que Equity Group existe depuis 1974. Et, c'est une firme de relations avec les investisseurs. Et, c'est vrai que, elle est basée à New York, à San Francisco, à Beijing. Mais comment lui, cette firme fait, elle intervient dans avec les, l'agent de placement de ses clients, elle intervient dans la micro-capitalisation, petite capitalisation, moyenne capitalisation des sociétés publiques dans un éventail d'industries. La force de Equity, c'est qu'elle a une bonne relation qu'elle bâtit avec ses clients, en moyenne, sur une période de 7 ans. Mais qu'est-ce qu'on se rend compte? Equity aujourd'hui travaille avec les grandes banques, je vous les cite, comme Brian Capital, Banquise, Banque de Montréal, City, Canaccord, Deutsche Bank, Davin Capital Marketing, Davison Company, CTC Securities, Compass Point, Imperial Capital, Daniel, Don, UKBC, Nesak, beaucoup. Alors, tout l'argent qu'ils viennent et ils apportent, ils donnent des crédits, mais ils gagnent beaucoup en intérêt.
Mais c'est justement,
une entreprise congolaise, elle ne pouvait pas vendre, c'est parce que, en faisant cela, elle a vendu l'âme. Ce qui fait que la plupart des bénéfices, des rendements, doivent répartir chez les investisseurs. Et lorsqu'on dit que les choses ne marchent pas, partout on veut montrer qu'il y a la guerre, il y a l'instabilité, mais vous voyez qu'elles comprennent, puisqu'ils savent que c'est là où on parle des risques et il faut faire beaucoup d'affaires pour rentabiliser. Alors pour moi, c'est une très mauvaise nouvelle parce que elle limite la capacité de pour crédit et finalement, c'est l'autre qui est un grand joueur qui va décider de comment les choses doivent être faites. Et les Congolais ne vont pas encore s'en retrouver. C'est bien vrai que les Congolais n'ont pas connu la culture d'épargne. Je comprends que les Congolais ne connaissent pas la culture d'investissement. Et quand vous trouvez un joueur de grand renom comme Equity venir là, on va donner un peu d'argent. Les Congolais ne veulent pas ça. Peut-être qu'ils vont donner des garanties, mais ce sont des fonds qui à risque et sur lesquels ils font beaucoup d'argent. Et on a trouvé dans le monde que c'est avec les fonds de risque que tout le monde fait beaucoup d'argent. Et puis tu as très bien compris, il exploite la situation instable économique ou politique du Congo et il fait de l'argent. Alors, pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle. Je peux le dire de cette façon.
Et alors, un autre sujet de la semaine, c'est cette session spéciale de la SADC sur la corruption.
Oui, c'est vrai. Il faut vraiment quand même, on parle avec des gens. Il y a beaucoup de mesures qui peuvent être prises, mais quand il n'y a pas de volonté politique, ça ne marche pas. Vous parlez de la corruption. Oui, je sais par exemple qu'au niveau de la Chine, il y a le BVCAC,
oui.
Qui est un organisme qui dépend de, qu'on a confié aux Belges pour surveiller toutes les entrées,
les importations les importations vers la RDC. Ouais.
Oui, mais qu'est-ce que se passe? Les gens contournent, ils vaillent avec les douaniers sur place pour dire oui, ne déclarez pas. Par exemple, un conteneur qui coûte 50 000, dites que ça coûte 10 000. Nous, tout ce qu'on va faire, on va appliquer la loi qui dit qu'il faut que vous payez les doubles la pénalité. Quand vous allez payer, au lieu de 10 000, vous payez 20 000. Et dans les 20 000 là, quelque chose qui a coûté 50 000. Nous ne pouvons avoir 5 000. C'est qu'il y a toujours d'évasion. C'est que c'est d'abord un comportement. Et les gens savent avec les lois comment ils font tout pour contourner. Alors, on va parler de la corruption. Oui, je sais qu'ici au Canada, on en a parlé même dernièrement. C'est un pays corrompu aussi. Il y a dernièrement, ça fait 2 jours qu'il y a une commission qu'on a appelée Charbonneau qui a publié une enquête, le résultat d'une enquête où même les partis politiques étaient impliqués. C'est un cancer, c'est aux États-Unis. Vous comprenez ce qui s'est passé avec VW. C'est qu'on ne peut pas ignorer que la corruption est présente, mais c'est dans les mesures de répression. Si le Congo ou les autres étaient très très sévères, punissaient, mettaient les gens en prison, et puis les gens remboursaient. Mais aujourd'hui, on vous dit non, mais si on doit récupérer le gain, qui va le faire puisque les plus hauts sont impliqués? Et avec ça, ça ne peut pas marcher. Vous comprenez, c'est que quand l'État est déjà fragile, quand l'État n'est pas en mesure de faire appliquer ces lois, et qui va les appliquer? Ça va être une lettre morte. On va toujours aller prendre des résolutions, mais ça ne va jamais s'exécuter. Mais ça aurait été beaucoup plus facile avec des mesures draconiennes, avec des mesures fortes, exemplaires, les gens pourraient comprendre. Mais avec les systèmes d'impunité, on promet celui qui commet des failles et puis il n'y a pas la culture d'excellence. Ça ne va jamais résoudre le problème. Malgré qu'on peut passer le temps à prendre des résolutions. Et puis, on connaît très bien que les Congolais, les Africains, ils sont trop forcément en parlant, mais en faisant quelque chose, ils ne le sont pas. Alors, moi, je pense que ça va perdre encore beaucoup de temps. Oui, c'est quand même de bonnes références, mais ça ne va pas donner de bons résultats.
Alors, Philippe, je vous avais présenté, et c'est ce que vous êtes, le président du Fonds d'investissement de Congolais de l'étranger. Comment ça avance? Ça avance bien, ce fonds, et pouvez-vous nous dire que, à ce jour, vous avez déjà pu financer quelques projets en République démocratique du Congo pour essayer un peu de parler de ce fonds?
Oui, merci d'abord. Je dois d'abord remercier le monsieur Saïd Dinit qui a envoyé en date du 30 octobre une invitation au fonds pour participer à la conférence internationale qui va avoir lieu à Kinshasa du 25 au 20 février 2015.
2016.
On est très honoré. Oui, 2016. On est très honoré de cette invitation et nous allons vraiment y répondre. Et puis, lui déjà nous fixe les opportunités qu'on doit trouver dans les grands lacs, qui parlent dans l'agriculture, l'énergie, les finances, les nouvelles technologies, les infrastructures, les mines et le tourisme. Alors il a beaucoup insisté, nous sommes très contents pour ça. C'est que il a quand même pris le temps d'analyser ce qu'est le fonds et qu'est-ce que ça peut donner sur le long et moyen terme. Elle a dit il y a aussi des tractations qu'on a entreprises déjà avec le gouvernement de Matata Tampolo. Ça semble très bien avancé, ce n'est pas le temps ou le moment d'en parler encore officiellement, mais les choses beaucoup avancées. À un niveau ou à un autre, il y a déjà de l'intérêt, et à un niveau ou à un autre, on essaie un peu de faire les choses beaucoup plus complètement. Et nous aussi, nous avons pensé, par exemple, dans le cadre de France, avoir des comptoirs, de vente de café, d'abord de comptoirs de diamants ou de minéraux, parce qu'on dit que au lieu que on n'est pas contre partager la richesse. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre lorsqu'on peut dire aux gens qu'on est incapable de prendre des mesures pour que nous-mêmes nous puissions produire. Et c'est mal vu. C'est vrai. On n'est pas contre la richesse
que les autres font chez nous.
Les étrangers. Oui, mais nous, ce que nous voulons, c'est partager cette richesse-là. Et maintenant, comment la partager? Nous venons avec des projets, par exemple des comptoirs. Les gens peuvent nous vendre des minéraux, nous allons les vendre, nous leur donnons ce qu'il faut, mais même plus que ce qu'on leur peut sur le terrain. Il y a avec une coopérative qui a Beni Butembo qui produit le café, et ici nous trouvons
des preneurs de
café comme Tim Hortons. Oui, et nous devons aussi maintenant vendre ces cafés-là et puis leur procurer beaucoup de moyens. Et il y a aussi, par exemple, au niveau du lac Tanganyika, il y a aussi des gens qui nous avons des bateaux et nous essayons de regarder comment nous pouvons prendre ces poissons-là, les vendre, avoir de l'argent. C'est que ce sont des choses qui sont déjà en train d'être faites, des contacts qui sont établis et nous voulons encore aller beaucoup plus loin. Et aussi pour les Congolais, ils sont sur place-là. Le grand problème, c'est quoi? Nous avons un type de gestion. On se dit, oui, ceux qui viennent là comme Equity Group, là, lui, c'est l'intérêt qu'il regarde. Mais que les autres en face ont pas, elle va demander des garanties. Et si les gens ne remboursent pas, il y aura des saisies, tout ça.
Mais tout opérateur économique normal ne vise que les intérêts. On ne vient pas en philanthropique, on vient faire des intérêts, on vient faire des bénéfices dans les affaires, c'est comme ça.
Ici, au Canada, vous allez à la banque, vous donnez 1 000 $. Après un mois, ce que vous avez gagné, c'est 12 $. Hein. C'est 1 000 $. Mais lui, quand il va vous donner ses 1 000 $ là-bas, je crois que si par mois, si c'est pas par mois, qu'il va vous demander au moins 200, il va jamais vous le demander pour 12 mois. Il va vous le demander pour un mois. Mais vous pouvez me faire ce que j'ai dit là. Mais ici, chez eux ou ailleurs, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne vont pas trouver des gens à qui ils vont prêter 1 000 $. pour avoir un intérêt de plus de 12 dollars par an.
Il s'adapte sûrement au système qu'il trouve en place. Et alors vous, à la différence, qu'est-ce que vous feriez quand vous êtes intéressé par de contrats, pour investir en République démocratique du Congo? Qu'est-ce que le fonds ferait concrètement?
Le fonds, d'abord, crée la richesse pour les Congolais, pour le gouvernement et pour les investisseurs que nous sommes, la diaspora. Alors, on n'est pas beaucoup gourmand pour dire que nous devons prendre une grande partie, puisqu'on veut qu'on vienne de ce pays-là qui nous a beaucoup donné. Si on est ce qu'on est aujourd'hui, c'est grâce à ce pays-là. Alors, on a souci, à cœur le souci de la population qui vit dans la pauvreté la plus extrême. On ne peut pas comprendre qu'à date, la RDC soit encore soit les 187e, sur les 187e pays, la planète en termes d'indice de développement humain et où le taux de pauvreté est de 80%. 80%, ça c'est une réussite. Moi, comme Congolais, je peux même dire que n'importe où on peut se promener, on identifie que vous êtes noir. Vous venez de quel pays? On a des enfants qui sont nés ici, mais chaque jour on les rappelle, non, vos parents viennent d'où? Et je peux même aller plus loin. Il y a des programmes ici pour lesquels un Congolais ou un Africain
ne peut pas accéder.
Notamment, on ne peut pas travailler dans l'usine qui produit les avions. Et on ne pouvait pas travailler, puisque vous êtes immigrant. Il y a des systèmes qui sont faits comme ça qu'on ne pourra pas jamais changer. Et avec ce système, on dit, ok, nous, on vient de quelque part, il faut qu'on arrange la situation de ces gens-là. Alors nous, quand on vient, on va dire, ok, qu'est-ce qui manque? Est-ce que vous avez besoin des équipements de production? Ok, si vous les avez, nous venons, nous allons co-gérer ensemble. On ne va pas dire que nous gérons, c'est nous qu'on gérons ensemble, mm-hmm. Et quand il y a les profits, nous les partageons. Mm-hmm. Et vous, comme national, vous en avez plus que nous. Mm-hmm. Vous devez payer, nourrir les autres. On ne vient pas comme un glouton, comme un étranger.
Alors
c'est ça la différence, mm-hmm, avec le fonds ou avec ce qu'ils ont fait.
C'est bien compris, Philippe, puisque le temps fait déjà défaut. Nous n'avons que 30 minutes pour cette émission. Une dernière question que je veux peut-être vous poser. Au mois de septembre, dans ce même studio, vous étiez en ligne depuis le Canada, nous avons parlé, vous avez manifesté un intérêt grand par rapport à la table ronde sur la protection sociale que le gouvernement voulait mettre en place. Effectivement, vous étiez très intéressé parce que vous voulez le bien-être des Congolais. Vous voudriez participer à la mise en place de cette politique de la protection sociale en RDC. Et cet intérêt s'est limité à ce que vous avez déclaré sur les antennes de Radio Capi, où vous êtes allé plus loin dans les démarches pour que vraiment le Fonds d'investissement de Congolais expatriés participe à cette politique de protection sociale dans le pays.
Oui, j'ai la joie de dire que le 26 novembre, on avait écrit au Premier ministre Mataka pour lui demander qu'on était intéressé en date du 6 novembre. Mais hier, il y a le premier ministre, M. Willy Matadi, qui a répondu beaucoup plus favorablement. Et nous sommes au courant qu'il y a des activités qui se passent à partir du 17 décembre. Je crois qu'il y a mon équipe qui va être là et ça va me permettre d'apprendre de s'ajuster, voir la réalité, de voir comment nouer des relations, des contacts, voir comment on peut aider. C'est qu'on ne s'est pas limité en parlant. On a écrit en date du 6 novembre, on a réussi à répondre au gouvernement et là maintenant on va défendre ce terrain pour établir les réseaux, faire comprendre aux gens, trouver le milieu et puis que les gens puissent être heureux, quoi. Alors, nous, c'est la différence avec les autres. On est dans les concrets, on ne veut pas perdre du temps et nous disons les choses que nous faisons. Et le 17, vous verrez une équipe du fonds d'investissement qui va être sur place, mm-hmm, pour interagir avec les autres dans le but d'aller plus loin dans la concrétisation des recommandations issues de la table, donc à laquelle vous êtes.
Ok, c'est alors un rendez-vous. Alors, nous vous attendrons alors à Kinshasa, peut-être pour qu'on essaie encore de voir plus loin comment ça va avancer le fonds d'investissement de Congolais expatriés. Philippe Wallesa, merci en tout cas de tout cœur d'avoir accepté de nous donner ce moment, commenter l'actualité économique, comment ça se passe au pays en RDC et par comparer avec ce que vous vivez à l'international. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation et nous pensons que ce n'est pas la dernière.
Merci beaucoup, à tantôt.
Très bonne fin de semaine à toutes et à tous. Retrouvez Panorama économique sur www.radiookapi toute la semaine. Et très bonne fin de semaine à toutes et à tous.